J'ai tout appris de la nuit.
Dans les yeux de Jacques Lucéran. Un feuilleton en 5 épisodes de Anne Sibran.
Épisode 2. Gardez le regard du cœur, quoi qu'il arrive.
Avril 1940. J'ai 17 ans. Notre premier printemps nazi. Autour de moi, personne ne fait rien, ne dit rien. Dans les conversations, quand les mots nazi, Gestapo, torture, fusillade apparaissent, aussitôt chez votre interlocuteur, quelque chose se ferme. Je suis devenu si sensible au phénomène qu'il me semble presque entendre un bruit particulier. On ne sait jamais alors si ce sont leurs yeux que les gens ferment, ou leurs poings, ou leur bouche. Il ne reste plus d'eux devant vous qu'une boule de refus. Et le plus inquiétant, c'est que ce mal récemment a gagné mes camarades eux-mêmes.
Lettre de Dmitri Gloukovski, écrivain russe, publiée le 8 mars 2022 dans le journal Libération.
Ma génération n'a connu ni répression de masse ni purge. Nous n'avons pas vécu dans l'atmosphère d'une terreur générale. Nous n'avons pas appris à changer notre perception du monde du jour au lendemain, à croire à la malice de nos alliés et à la bonne foi des ennemis d'hier sur un claquement de doigts. Nous n'avons pas appris à justifier les guerres fratricides et n'avons pas assisté à la préparation morale et militaire des guerres mondiales. Et voici que nous, ma génération, vivons en direct ce qui, semble-t-il, n'aurait jamais dû se produire à nouveau. Nous vivons une expérience étonnante, la possibilité de comprendre pourquoi nos pères et nos grands-pères se taisaient et se baissaient. Comment des nations entières se sont engouffrées dans des abîmes de folie. Comment les peuples ont fermé les yeux sur des tyrans qui ont provoqué les guerres mondiales. Comment certains montaient à l'échafaud silencieusement, tandis que les autres consentaient à leur couper la tête. Nous voyons maintenant de nos propres yeux comment on déshumanise les gens avant de les dévorer, à travers l'humiliation, le dénigrement, la déformation de leurs propos et de leurs motifs, et le refus même de leur capacité à ressentir et réfléchir comme des êtres humains. Nous savons comment est camouflée la prédation. Nous apprenons à cultiver notre propre indifférence face à l'injustice qui se déroule sous nos yeux. Nous apprenons à ne pas nous apitoyer sur la victime et à compatir avec l'agresseur. Nous apprenons à ignorer la folie progressive des dirigeants et à nous persuader de leur sagesse et de leur perspicacité.
Ici, en France, qu'aurait-il fallu attendre? Que la terreur s'installe? Que travaillant à la façon d'un énorme microbe, elle mange toutes nos joies vivantes? Un soir, début avril 1940, mon ami Jean était parti vers l'avenue de Clichy visiter un ami de son père, mais la concierge l'arrêta au passage. Deux jours plus tôt, à 5h du matin, la police allemande était venue le chercher. Comme la concierge s'inquiétait pour lui, un officier allemand lui avait répondu
« Madame, ne vous en faites pas, ce n'est qu'un juif. »
Puis j'appris par Radio Paris, allemand, que des lignes téléphoniques ayant été coupées en Bretagne par des terroristes français, 10 otages venaient d'être fusillés. Peu après, mon ami Gérard fut arrêté par la Gestapo et conduit à la santé. Et là, c'est trop, je crois. Je tombe malade. Au sommet de ma fièvre, je fus secoué de frissons. Ce n'était pas un microbe, un virus qui entrait. C'était une résolution. D'abord, je ne devais rien dire dans ma famille, du moins pas tout de suite. je devais rencontrer aussitôt que possible deux amis en priorité. Plus tard, il me faudrait en contacter une dizaine d'autres. La liste était prête. Au premier jour de ma convalescence, je me dis à haute voix dans ma chambre « Ma maladie, c'est l'occupation. » Mais avant de devenir résistant, j'ai voulu apprendre à danser.
Tu es prêt ?
Je crois.
Alors on y va.
Il y avait en moi un tel convoi de force en route vers des actes qu'il fallait bien qu'il occupât tous les chemins à la fois pour pouvoir passer.
1, 2, 3, 4.
J'appris toutes les danses très vite, comme on se désaltère en plein été. De la valse jusqu'au swing. Je me fixais sur le swing avec enthousiasme. Pas pour des raisons esthétiques, on s'en doute. Mais vraiment, le swing, c'était une danse d'exorcisme. Quand vous aviez agité 5 ou 6 heures de suite un paquet de filles au bout de vos bras avec tous leurs parfums, vous étiez fourbu, soit, mais vous aviez chassé les démons.
Rien n'est plus mystérieux que les chemins de l'engagement. Quel en est le détonateur ? Je pense à ce jeune breton, Adrien Duguay-Lejoudec, deuxième combattant français tué en Ukraine. 3 jours après le début du conflit, il répond à l'appel de Volodymyr Zelensky. Il appelle son frère Charles, il veut aller combattre. Le frère, étudiant, décide de partir avec lui. Il faut agir, aider ce peuple injustement attaqué. Il partage les idéaux d'une Europe unie face au danger. Et surtout, il leur semble que le contexte ressemble énormément à celui de la Seconde Guerre mondiale. Charles est refoulé à la frontière. Adrien passe sans encombre. Il mourra quelques semaines plus tard, le 25 juin 2022, dans un bombardement. Ce qui me frappe, c'est que les parents hésitent d'abord à s'exprimer dans la presse, craignant que l'enrôlement de leur fils ne soit perçu comme une foucade. Ce que les parents redoutent, c'est que cet engagement sincère ne puisse plus être entendu dans le monde d'aujourd'hui.
Chaque jour, dimanche compris, je me levais à 4h30, avant l'aube. Après la prière, une toilette rapide à l'eau froide, je me penchais à la fenêtre de ma chambre pour écouter Paris. Dans cette ville à demi stupéfiée et que chaque nuit le couvre-feu gelait, j'étais devenu l'un des responsables d'un réseau de résistance. À peine avais-je parlé à mes amis, leur expliquant qu'on n'avait plus le droit de supporter l'occupation, que tout s'était mis en place très vite. « On attendait tout ça de toi », m'avait-il dit.
Cette unanimité à te désigner me rappelle l'histoire de l'Orchestre National d'Équateur. Juif de Prague, Vera Kohn avait dû s'exiler à Quito pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle y resta toute sa vie.
Tu sais comme j'aime la musique classique. Après la guerre, je m'étais abonnée au concert de l'Orchestre National d'Équateur. Cet orchestre, c'était une catastrophe. Il massacrait tous les morceaux, au point que je n'y allais presque plus. Puis voilà que j'apprends qu'un jeune prodige, un violoniste, vient ici en tournée. J'ai pris ma place sans trop y croire. Je me souviens, c'était un concerto de Mendelssohn. L'orchestre était réuni au grand complet autour du jeune musicien. Anita, je n'ai jamais rien entendu d'aussi beau. La virtuosité du violoniste avait comme aspiré le reste des musiciens qui se sont élevés avec lui jusqu'à cette interprétation sublime.
On parlait ce jour-là de comment changer le monde. Grâce à Vera, j'ai compris que pour faire de grandes choses, il n'est pas nécessaire que tout le monde sache jouer juste. On n'a besoin que de quelques prodiges et tout s'accorde par contagion autour d'eux.
Nous étions en mai 1941. La réunion préliminaire devait avoir lieu un mardi dans un appartement de la famille de Jean. Les 10 camarades contactés s'y retrouveraient à 5h pile. Ils y furent. Mais ils n'étaient pas 10. Ils étaient 52.
Voilà, les jeux sont faits.
Jacques, c'est à toi de parler.
Ma tête s'emplit d'une clarté inconnue. Je me mis à savoir en une fois tout ce que j'avais cherché pendant des semaines. Je leur dis que leur engagement était sans retour, que ce que nous étions en train de faire s'appelait un mouvement de résistance, mais que notre extrême jeunesse, je n'avais que 17 ans à l'époque, faisait qu'on nous croirait des gosses, qu'on ne nous tiendrait pas pour suspects, au début en tout cas. En quelques semaines, le mouvement grandit au rythme d'une cellule vivante. Nous étions les volontaires de la liberté.
Quelle sera notre mission ?
Informer la population. Les Français ignorent tout de la guerre. Nous publierons un journal qui regroupera les vraies nouvelles du front, ordonnées, commentées par nous. Il faut combattre le défaitisme, l'indifférence, tout faire pour empêcher les Français de s'habituer au nazisme. Il nous faudra surtout recruter dans la jeunesse française les hommes prêts à aider les Alliés à libérer la France quand l'heure viendra, ce dont je ne doute pas.
Jacques, mieux que quiconque ici, tu sais sentir les gens. C'est toi qui dois faire le recrutement.
Grâce à la cécité, j'avais développé ce pouvoir que tout le monde possède, mais que presque tous oublient d'exercer, l'attention. Pour vivre sans les yeux, il faut rester heure après heure en état d'éveil, de réceptivité et d'activité à la fois. L'attention, en effet, n'est pas simplement une vertu de l'intelligence, c'est un état de l'être, un état sans lequel nous ne serions jamais capables d'être complets. C'est l'écoute même de l'univers.
Le jeune postulant ne va plus tarder. Tu te prépares à l'accueillir dans ta chambre au troisième étage de cet immeuble du boulevard de Port-Royal. Tranquillement, tu respires, veillant à ce que rien ne vienne troubler cette lumière qui coule en toi. La sonnette a fonctionné selon le code. Tu te lèves, va ouvrir.
Entrez.
Ce jeune homme qui remonte le couloir ignore que déjà tu le sondes, attentif à son souffle, au rythme de ses pas. Tout est vision, son odeur, la lueur colorée qu'il dégage. Tu lui présentes ce fauteuil où il s'assoit. Toi, tu préfères la chaise à côté du bureau. Tu rallumes cette pipe courte qui dissimule mal ton extrême jeunesse, ses mèches brunes en désordre autour de ton front. D'abord, tu essaies ton visiteur, avide, par des questions anodines qui le déconcertent souvent.
Vous habitez quel quartier ?
Où ?
Quels sont les prénoms de vos frères et sœurs ?
Ou encore ?
Vous avez quels auteurs cette année au programme de français ?
Tes postulants, tu les effeuilles, tranquillement, tendrement. Ceux qui se fâchent, tu les écartes aussitôt. Et tandis que le jeune homme parle, tu te glisses sous ses mots, remonte le flux de son intonation pour entrer dans cette divination des âmes et des consciences. Patiemment, tu t'approches et t'approches encore, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus entre vous que ce cœur à cœur, cette vibration de confiance, cette rencontre.
Cela m'emplissait d'une certitude qui ressemblait à l'amour.
Cette certitude, c'est cet espace où vos cœurs se sont reconnus. Recruter, c'est aussi ouvrir ce regard, cette attention chez l'autre, le rendre voyant. Comme le violoniste virtuose de Quito, tu ne te contentes pas de donner la note juste, tu réveilles un réseau plus vaste, tu impulses le mouvement.
Une chose était sûre. Depuis que nous faisions de la résistance, nous avions reçu un supplément d'esprit. Nous lisions entre les mots, dans les silences. Ma conscience était entrée en communication avec des centaines d'autres consciences et souffrant ou espérant avec cent autres, grandissait.
En janvier 1943, Jacques Lucéran rencontre Philippe Vianney, un officier de la guerre 39-40 âgé de 26 ans. Il a fondé le mouvement Défense de la France avec un journal clandestin qui tira 10 000 exemplaires. Il veut recruter Jacques pour diriger la diffusion du journal.
Pour nous, les volontaires de la liberté qui végétions assez glorieusement, mais qui ne progressions plus, c'était un monde qui s'ouvrait. Le monde à l'échelle réelle. Un vrai journal, en 1943, c'était un objet très précieux. Chaque ligne imprimée avait été arrachée à tant de courage et à tant d'adresse. Chaque ligne imprimée contenait la mort possible de tous ceux qui l'avaient écrite, composée, passée sous les presses, transportée, distribuée, commentée. Il y avait du sang au bout de chaque page. Et cela n'est pas une façon de parler.
Grâce à Jacques et à son équipe, le journal Défense de la France atteint une diffusion de 250 000 exemplaires. Puis, alors que Jacques passe brillamment les épreuves écrites du concours de Normale Sup, une lettre d'Abel Bonnard, le ministre de l'Éducation, le somme d'interrompre les épreuves d'oral car un décret de Vichy exclut les handicapés de la fonction publique.
Pour avoir le droit de vivre dans ce monde, il fallait prouver qu'on n'était à rien et qu'on avait le corps intact. Les invalides de l'esprit, les malades de l'âme y trouvaient leur place aussitôt. Malheur aux unijambistes, aux bossus, aux nègres et aux juifs. Pour cela, on préparait dans les laboratoires de biologie à l'extrême pointe de la science moderne une fin commode. Extermination dans les chambres à gaz, stérilisation et, dans la meilleure hypothèse, élimination lente. On élaborait une société où les facteurs moraux et spirituels seraient enfin traités pour ce qu'ils étaient. Les déchets d'une civilisation morte.
Il y a aussi autour de toi, mon cher Jacques, ceux qui t'ouvrent les portes, aplanissent les obstacles, contribuent à ton déploiement. Je pense à tes parents, tous ces degrés d'ouverture au monde, de confiance qu'ils ont gravi avec toi, te laissant retourner à l'école publique et soupçonnant sans doute ton entrée en résistance. Cette liberté qu'ils te veulent à chaque fois. Je pense surtout à tes parents ce 20 juillet 1943 à 5 heures du matin.
Police allemande, ouvrez! Machen Sie die Tür auf! Nous venons pour Jacques Lucéran. Allez le chercher, s'il vous plaît.
La police allemande te demande.
Je viens.
La voix de papa était un peu comme autrefois quand il s'adressait à son petit garçon. Il aurait tant voulu me protéger.
Les Allemands s'impatientent dans l'entrée. Tu te dépêches, inquiet pour tes parents. Remontant le couloir, tu penses à tous ceux dont le monde arrêtait avant toi. Si peu ont survécu, qu'il te semble indécent d'en faire toute une histoire.
Suivez-nous, s'il vous plaît.
Dans un moment comme celui-là, tu cherches seulement à rester simple. Et cela m'éblouit.
Ils m'ont conduit au centre de la Gestapo, rue des Saussets. Un officier m'emmène de bureau en bureau pour être interrogé. Ich bin der Blinde. C'est moi l'aveugle, je leur réponds à chaque fois.
Oui, à ce moment, tu étais bien l'aveugle, tant la peur et l'angoisse occultaient ta vision. Au fil des interrogatoires, tu finis par deviner l'identité de celui qui vous a trahi. Tu sais aussi que 14 des tiens ont été arrêtés, mais que les dirigeants du mouvement sont encore libres. Ce qui fait que peu à peu, quelque chose en toi se dilate. Tu devines ce qu'ils savent et surtout ce qu'ils ignorent. Alors ta créativité s'éveille. Tu inventes des noms, des événements. À ton tour de les rendre aveugles, ou du moins, les égarer.
Un petit conseil dans des circonstances de ce genre. N'allez pas chercher le secours trop loin. Ou bien il est là, contre vous, dans votre cœur, ou bien il n'est nulle part. Ce n'est pas une question de caractère. C'est une question de réalité. La réalité, c'est ici et tout de suite. C'est la vie que vous êtes en train de vivre, là, dans la seconde. N'ayez pas peur d'y perdre votre âme. Dieu est dedans. Puis ils m'ont transféré à la prison de Fresnes où je suis resté pendant près de 6 mois. Quand on est prisonnier, on ne sait rien. On est sûr de rien. C'est cela la prison, exactement. Vous êtes séparé de la confiance. On la tranche de vous d'un coup. Alors, vous naissez à un monde horrible où rien ne tient plus à rien, où la seule loi qui subsiste est humaine. Et vous comprenez soudain que, de tous les dangers de l'univers, l'homme est le pire.
On t'a mis au secret, cellule 49, deuxième division, avec cette inscription sur ta porte. Vorsicht, détenu dangereux. Alors tu comprends qu'il te faut, pour survivre, reconstituer, une fois encore, ton espace intérieur. Un travail de chaque instant qui te prépare, tu l'ignores encore, à l'enfer de Buchenwald que tu connaîtras dans 6 mois. Arraché à la bienveillance de tes proches, à l'ivresse de l'action, te voilà confronté à l'indifférence, la brutalité, la solitude de l'isolement. Apprendre à vivre sans la poignée de main sur l'épaule. Apprendre aussi, pour sauver les tiens, à manier le mensonge. Habiter comme nu, sous le regard des autres. Apprendre enfin à composer avec ton corps. Cette bête peureuse, sans dignité, qui perd en même temps que ses habits un peu de son courage. Chaque chose en toi qui n'est pas ajustée t'est aussitôt montrée. Peu à peu, tu apprends à toucher l'odeur de la prison, et mieux encore, à l'arrêter du bout des doigts. Dans les pas de l'homme qui marche au-dessus de toi, tu décèles la clarté d'une parole. Tu sais désormais entendre le regard de l'ami croisé dans un couloir. Par la pensée, tu passes les murs pour aller parler avec tes compagnons d'infortune, les serrés contre toi. Maître de toutes les présences, tu sais contenir tes émotions. Ton voisin de cellule ne te gêne plus. Au fil des mois, paradoxe suprême pour un aveugle, tu sais tenir les yeux fermés, ne rien attendre de l'extérieur. La prison que tu contiens est redevenue le territoire fascinant d'une aventure de l'âme. Tu redécouvres la liberté.
J'ignorais jusque-là que la vie n'est pas un objet que nous recevons de mains étrangères, mais un mouvement, un feu que nous entretenons nous-mêmes. J'ignorais que pour vivre, il faut travailler à vivre et refuser avec passion tout ce qui n'est pas la vie.
Le 31 janvier 1944, tu es transféré au camp de Compiègne-Royalieu. Tu as 20 ans, tout juste. L'air frais t'enivre, te pique le nez. Tu titubes. Tes jambes sont molles. Enfin, tu retrouves tes amis. Tu passes de main en main dans ce tourbillon d'hommes.
Il y avait là des avocats, des paysans, des médecins, des représentants de commerce, des instituteurs, des camelots, des anciens ministres, des pêcheurs, des mécaniciens de locomotives, des conspirateurs, des champions de catch, des professeurs au Collège de France, des crieurs de journaux. Il y avait là toute la France résistante, la petite et la grande, secouée pêle-mêle dans cette benne à chargement, où tous les 10 jours, le plateau basculait et 2000 hommes partaient pour l'Allemagne.
Votre dernière nuit à Compiègne. Nul n'a le cœur d'aller dormir avant le grand voyage. Vous échangez des cigarettes. Vous avez les yeux qui piquent, serrés autour du feu. Qu'emporteras-tu demain? Quel est l'inventaire de ta panoplie de survie? As-tu pris un carnet, ta pipe, la médaille que t'a donnée ta mère? Reste-t-il une relique de ton enfance serrée dans ton barda?
Nous
sommes des réfugiés, toi et moi.
Prends le plus important. Prends les lettres. Prends seulement ce que tu peux mettre dans tes mains. Les rushniks, les icônes, les couteaux argentés, prends les crucifix en bois et les moulages dorés, prends le pain, quelques légumes, puis va.
Nous ne reviendrons plus jamais là.
Nous ne reverrons plus jamais nos villes.
Prends les lettres, toutes, jusqu'à la dernière, la plus vile.
Nous ne reviendrons jamais dans nos supermarchés.
Nous ne boirons plus jamais aux sources asséchées.
Nous ne verrons plus les visages familiers.
Nous sommes toi et moi des réfugiés. Il nous faudra courir à travers la nuit et les tournesols. Fuir les chiens, dormir parmi les bêtes, à même le sol. Nous devrons recueillir l'eau des pluies, attendre dans les camps, provoquer les dragons sur les drapeaux dans les champs. Les amis ne reviendront pas. Tu n'emprunteras plus ce sentier. Il n'y aura plus de cuisine enfumée, ni de travail coutumier. Il n'y aura plus de lumière dans les pièces délaissées, plus de plaines vertes, ni d'espaces désertés. Il y aura un soleil flou derrière la vitre du wagon chaud. Il y aura une fosse de choléra couverte de chaud. Il y aura des souliers de sang sur des jambes féminines. Des sentinelles exténuées au bord de l'abîme. Un postier tué et son sac vide. Un prêtre pendu sous les rires perfides. Le silence du cimetière, le bruit de commandantures, les listes de morts, imprimées sans vérifier l'écriture, si longues que l'on n'a pas le temps de chercher chaque matin son nom là-dedans.
Serhiy Jadan, un Ukrainien du Donbass. J'ai tout appris de la nuit. Dans les yeux de Jacques Lucéran. Un feuilleton en 5 épisodes de Anne Sibran. Avec Audrey Bonnet.
Sylvain Levitte.
Charlie Faber.
Andrea Schiffa.
Vadik Korolev.
Luna Klanit.
Ганна Кузіна.
Богдан Кіпкало Олександрович.
Ярослав Поляк.
Володимир Жданов.
Павло Зюпанін.
Et les voix de Leander Hartmann, Philippe Weissert, Nicolas Pietri, Gary Green, Bruno Ouzo, Antoine Crozet, Olivier Bonneau, Michael Doncarli, Raphaël Magnabosco, Cédric Daniello. Bruitage, Sophie Bissans. Musique originale, Anthony Capelli. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage, mixage, Pierre-Henri, Titouan Labarre. Assistante à la réalisation, Sophie Pierre. Réalisation, Laure Egorov. Claire Lucéran a mis à disposition d'Anne Sibran pour l'écriture de ce feuilleton un large corpus de textes de Jacques Lucéran, référence complète à retrouver sur notre site franceculture.fr.